Connais-toi toi-même, conseillait le sage Socrate, il y a bien longtemps. Et depuis, eh bien, on nous propose bien des manières de nous connaître, en particulier un nombre assez impressionnant de tests. Certains d'entre eux sont d'ailleurs bien faits. Je me demande pourtant si ces tests peuvent nous donner une juste idée de ce que nous sommes réellement. Je veux dire qu'ils nous permettent de reconnaître certains de nos travers. Et c'est sûr. C'est sûr qu'ils mettent en lumière des qualités ou des possibilités qui méritent d'être exploitées ou, pour le moins, développées, mais qu'ils ne nous disent pas ce que nous valons vraiment. Non plus relativement, mais effectivement, chacun en soi. Que vaut l'homme? Que valons-nous, mes amis? Comment le savoir? Dans une émission de France Inter sur les assurances, quelqu'un posait cette question pertinente. Sur quels critères évalue-t-on ce que vaut un homme? Alors j'ai pensé qu'il serait utile d'en parler avec vous. Et c'est ce que je fais. Que vaut donc un homme? Que valons-nous? Eh bien, tout cela dépend du point de vue sur lequel on se place. Pour le matérialisme, c'est assez simple. On fait le compte de ce qui nous constitue, un peu de matériaux nobles, métaux, du fer, du magnésium, mais bien peu. Le prix des matériaux a augmenté, mais à supposer que l'on puisse sans peine récupérer ces matériaux qui nous constituent, eh bien cela ferait tout au plus, allez, 1,5 € à 2 €. On peut aussi considérer notre valeur comme engrais, une fois que qu'on pourrait disposer de notre corps. Cela ne ferait pas plus, loin de là. Nous ne valons pas grand-chose sous l'angle matérialisme. Je dirais plutôt que nous sommes encombrants et coûteux. Il n'y a qu'à penser à ce que cela coûte à se débarrasser proprement de nous une fois que nous sommes morts. Les pompes funèbres se font payer d'autant plus cher. Eh bien, bon, je ne vous apprends rien. Mais nous avons une valeur sociale. En d'autres termes, nous jouons un rôle dans la société. Alors, comment calculer cette valeur sociale? Les assurances-vie ont dû trancher la question. Que verse-t-on à la famille lorsque quelqu'un meurt? Eh bien, cela dépend de ce qu'il a versé pendant sa vie. Cela dépend du montant de sa prime d'assurance. Et celle-ci est fixée en proportion du salaire. Ce qui veut dire que la valeur d'un homme est proportionnelle à ce qu'il gagne. Pour ce qui est des assurances, cela signifie que dans la mort, l'argent va à l'argent. Mais c'est déjà ainsi dans la vie. Cela ne doit pas nous surprendre, mais qu'il est triste de penser que l'on réduise la valeur d'un homme à son salaire ou, si vous le préférez, à son pouvoir d'achat. Les femmes au foyer ne vaudraient donc pas grand-chose? Pour ne prendre que cet exemple, je sais bien qu'il est question de changer cela et de leur verser une sorte de salaire et de leur préparer une retraite. Enfin, ça fait longtemps qu'on en parle. On en parle seulement. Et c'est justice, vous me direz. Encore que, nous risquons d'enveler à son rôle d'accueil ou à sa vocation de mère ce que ses rôles doivent avoir de grand, c'est-à-dire de gratuit. Tant il est vrai que, dans notre société, la correction d'un mal entraîne le plus souvent un autre mal, parfois pire d'ailleurs. Mais je ne voudrais pas m'éloigner trop de notre propos. Je pense à la valeur réelle d'un homme, ou d'une femme, hein, c'est pareil. Et se tromper que de dire qu'un sourire, qu'une parole d'encouragement dite à propos, qu'une débordante bonne humeur ait plus de valeur sociale que le travail fourni à l'usine ou au bureau. Et évidemment, cela ne peut se chiffrer. Et la ménagère qui tient sa maison en parfait état de propreté et qui sait garnir les fenêtres de jolies fleurs, nettoyer les environs de sa maison, et le mari qui repeint les châssis, la façade et qui, par surcroît, est assez artiste pour le faire avec goût. Et ce don sans valeur sociale? Ce foyer ouvert à tous ou ceux que la maladie ou l'épreuve attriste peuvent trouver comme un havre accueillant où l'on reprend des forces, où l'on retrouve l'optimisme, le courage de vivre? Quelle est la valeur sociale à l'homme, à la femme qui en sont l'âme? Mais tout cela ne se chiffre pas et dans notre civilisation, ce qui ne se chiffre pas malgré les concessions théoriques que l'on veut bien faire, cela n'existe pas. Combien suis-je heureux de penser que nous ne sommes pas contraints d'accepter cette vue matérialiste de l'homme ? que je serais déçu si je ne valais vraiment que les matériaux qui font mes os et ma peau, et si ma valeur réelle était fonction de ce que je gagne. Ma femme aurait fait une bien triste affaire, n'est-ce pas ? Heureusement, il y a une dimension spirituelle qui change tout. Il suffit d'ouvrir la Bible, le livre inspiré de Dieu, pour découvrir qu'en fait, l'homme, chaque homme, chaque individu, a une valeur infinie. Et dès les premières pages de ce livre, déjà, nous apprenons qu'il a été créé. L'homme a été créé seul au sein de tous les êtres vivants de la planète. Qu'il a été créé à l'image de Dieu. Voilà ce qui, déjà, en dit la valeur. Oh, je sais bien que si Dieu a fait l'homme à son image, l'homme le lui a bien rendu. Mais notre Créateur ne nous tient pas rigueur de notre aberration. Et la suite de l'histoire est là pour le prouver. Cette créature s'étant perdue par sa volonté d'indépendance à l'égard de Dieu, Dieu mettra tout en branle pour la retrouver. Toute l'histoire de l'humanité, et spécialement celle du peuple d'Israël, et le développement de cet égarement et de la quête de Dieu pour retrouver et ramener à lui cette humanité perdue. Et notez-le bien, ce qu'il cherche, ce n'est pas l'humanité en tant que réalité abstraite, globale, mais il recherche chaque individu qui la compose, chaque être humain en particulier. Dans notre monde matérialiste, on a une certaine idée de la valeur de l'humanité, mais c'est, vous le savez, au détriment des individus. On parle de l'avenir de l'homme, avec un H majuscule, mais on prépare cet avenir sur les cadavres des hommes, sur le mépris de la valeur de l'individu. Dieu, au contraire, s'intéresse à chaque homme personnellement. Vous connaissez probablement cette courte histoire racontée il y a plus de 2000 ans par Jésus-Christ lui-même, et qui disait « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans les déserts pour aller après elle, pas après celle qu'il a perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et puis, lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Vous le voyez, mes amis, ce n'est pas une histoire, c'est une simple comparaison. Mais elle résume une histoire extraordinaire. Elle résume l'histoire d'un Dieu qui, pour retrouver ses créatures, n'a pas hésité à aller jusqu'au bout. Vous avez entendu ces mots. Le berger s'en va à la recherche de sa brebis jusqu'à ce qu'il la retrouve. Savons-nous ce que cela signifiait pour Dieu ? Sommes-nous seulement capables d'en mesurer la portée ? Jésus disait lui-même « Je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé. » Ou encore « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Tel était son dessein. Et pour cela, il est allé jusqu'au bout. Non seulement il a accepté de renoncer pour un temps à sa gloire, à sa divinité, non seulement il s'est fait homme semblable à nous, partageant nos faiblesses, nos malheurs, nos drames, mais encore, il a accepté d'être incompris, rejeté, considéré comme un blasphémateur et finalement mis à mort. Mais il n'était pas un martyr. Il nous avait avertis que cette mort était nécessaire, qu'en fait, il était venu dans le monde exprès pour cela. Le bon berger, avait-il dit, donne sa vie pour ses brebis. Je donne ma vie, personne ne me l'ôte. Pour sauver l'homme, il fallait que lui soit mis à mort. Et il est allé jusque-là. Il l'a volontairement accepté, Dieu lui-même acceptant de mourir. Ce n'est pas banal. C'est même scandaleux, inacceptable, une folie. Bien sûr, nous ne vous pouvons pas comprendre, mais le chrétien sait que c'est vrai. Et c'est même ce mystère qui lui révèle sa valeur. Il existe un cantique, déjà ancien d'ailleurs, et qui contient cette phrase « Savons-nous le prix d'une âme ?» Alors, le prix d'un homme, eh bien, oui, nous le connaissons puisque Dieu a payé ce prix pour nous racheter, pour nous retrouver, nous ramener à lui. Et ce prix, c'était sa propre vie. la vie de Dieu contre la vie d'un homme. Parce qu'il nous avait fait à son image, sans doute, mais bien plus, tout simplement, parce qu'il nous aime. Voilà une dimension nouvelle qui ne doit rien au calcul matérialiste. Si Dieu nous a donné sa propre vie, c'est qu'il nous aimait infiniment. Un amour que notre intelligence et nos sens ne peuvent comprendre. Mais à ses yeux, vous avez une valeur infinie parce qu'il vous aime infiniment.